Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Il est midi 47. Bonjour Laurent Mauduit.
Bonjour.
Journaliste, écrivain, cofondateur de Mediapart, vous publiez aux éditions La Découverte une histoire des privatisations des biens publics. Prédation, on va en reparler. C'est un livre très intéressant. Mais d'abord, dites-nous ce que vous pensez de ce plan de relance qui marque une intervention massive, sans doute sans précédent, de l'État français dans l'économie.
Vous savez que la sémantique a toujours son importance en politique et plan de relance. Il faut lever une ambiguïté pour ceux qui nous écoutent, parce que relance, les gens vont se dire, c'est formidable, il va y avoir plus de salaire, plus de salaire minimum, plus de pensions de retraite, plus d'allocations pour les... Non, plan de relance, et c'est ça la première ambiguïté de ce plan, c'est que pour l'une des difficultés de la conjoncture, c'est que les Français épargnent beaucoup, mais ils ont peur, ils ne consomment pas. Et la grosse question, c'est la question de la consommation. Que faire pour la débloquer? Or, vous voyez bien que...
Il aurait fallu une politique de la demande, c'est ça que vous dites?
Oui, parce que vous voyez bien que la philosophie générale du plan, c'est la politique de l'offre. C'est pour les entreprises. Et donc ça, la consommation est la première critique.
Ce que dit le gouvernement, je vous interromps. Ce que dit le gouvernement, c'est que la demande, on l'a assurée avec le chômage partiel. On a maintenu globalement les revenus des Français.
Mais vous savez comme moi, l'autre critique parallèle qu'on peut adresser au gouvernement, c'est qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et apporter autant d'argent aux entreprises, quel effet cela aura-t-il si dans le même temps la consommation n'est pas débloquée? Et la critique est d'autant plus forte que tout de même, on est instruit de l'expérience du passé. On est instruit notamment de l'expérience du quinquennat précédent avec le CICE, puis le pacte de stabilité. On a dépensé au total 43 milliards d'euros à l'époque, sous Hollande, à l'époque où Emmanuel Macron déjà jouait un rôle déterminant. Or, toutes les études disponibles, y compris celles faites par les proches d'Emmanuel Macron, comme Jean Pisani-Ferry, montrent que ceci, 43 milliards d'euros, ça n'a créé aucun emploi. Marginal, on ne peut pas le chiffrer. Et donc, il y a un aspect, je trouve, assez stupéfiant de voir que même quand les faits sont têtus, même quand on sait que ça n'aura pas d'effet, sauf des effets d'aubaine, on continue.
Est-ce qu'on peut réellement comparer les périodes? Parce que là, on est dans une crise avec une récession jamais vue et un tissu économique qui est menacé. Donc, il y a des entreprises à sauver et des emplois, évidemment.
Donc, la gravité de la crise bouscule toutes les lignes. Et donc, il y a chez Emmanuel Macron des aspects de doctrinaire. On va y venir avec les privatisations. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'assez plastique. Et donc, il sait aussi regarder dans le camp d'en face. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est un plan qui est totalement hors norme. Massif,
ampleur, oui.
Gigantesque. Mais en même temps, on est en droit de s'interroger sur sa possible efficacité. Là, l'efficacité que l'on peut évaluer, vu de loin, c'est sans doute des effets d'aubaine et des effets sur l'emploi. Est-ce que vous avez entendu des économistes de toute sensibilité vous dire « oui, ça aura un effet massif sur l'emploi ». Honnêtement, on va se retomber dans la même... comédie du pouvoir qu'on a connue avec le pacte de stabilité, on va essayer d'expertiser les emplois créés. À mon avis, ce sera très faible.
En tout cas, à court terme, sûrement, parce que le gouvernement lui-même prévoit 800 000 suppressions d'emplois dans les mois à venir. Il y a quand même, Laurent Mauduit, sous l'effet de la crise sanitaire, et vous venez de le constater, un recul de l'idéologie néolibérale que vous dénoncez.
Ben non, la politique de l'offre, c'est une politique libérale.
Oui,
Mais le
déluge d'argent public, non, ça, c'est pas néolibéral.
Certes, mais il y a des libéraux, ou ce qu'on appelait autrefois les ultra-libéraux, qui s'adaptent. Hein. Un Alain Madelin qui devient ministre des Finances, brièvement, ça a duré 3 mois, augmente massivement les impôts. Donc voilà, il faut pas... La conjoncture historique que l'on vit amène à des changements de données, mais ça ne change pas la doctrine. Et donc, pour les privatisations, moi, c'est ça qui me frappe, c'est que, par exemple, ils suspendent. Mais ça reste l'alpha et l'oméga de leur politique. C'est ça, la doxa.
On va revenir sur cette histoire parce qu'elle est très intéressante, passionnante. Vous rappelez des épisodes qu'on a un peu oubliés de ces gouvernements des 30 dernières années. Emmanuel Macron, puisqu'il s'agit de lui, il n'a plus grand-chose à privatiser. Le boulot a été fait largement avant lui, non?
Écoutez, il y a eu deux grandes vagues. Il y a la grande vague qu'on a connue de 86 à la fin des années 90.
Gouvernement Balladur.
Balladur-Sarkozy et ensuite... Lionel Jospin, hein, les socialistes s'y mettent aussi. Et ce qui change à l'époque, c'est massif. On ne s'en rend pas compte, parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, Balladur, Sarkozy nous disent on va changer de capitalisme, on va aller vers un capitalisme plus populaire. Hein, on va revenir à la monarchie de Juillet. Allez, enrichissons-nous.
Oui, achetez du Suez.
Or, en fait, c'est pas ça. Oui, c'est ça, acheter du Suez. Vous vous souvenez de la publicité
oui,
de l'époque.
Oui, et de la catastrophe qui a suivi.
Absolument. Or c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ce sont les privatisations qui ont conduit à la modification de l'horlogerie interne du système. On a basculé d'un capitalisme, on appelle ça rénant par commodité d'expression, vers un capitalisme beaucoup plus anglo-saxon, tyrannique.
Il n'y a plus de politique industrielle, dites-vous, c'est le cours de bourse qui devient l'étalon de toute décision.
C'est ce que l'on vit à partir des années Jospin. Hein, c'est... quand Jospin dit je n'y arrive pas, c'est parce qu'il a vécu Michelin avec les licenciements boursiers. Bon, voilà, c'est ce nouveau capitalisme. Et ensuite, avec Macron, enfin, ce qui commence dans les années 2000 et ce que Macron va accentuer, c'est encore beaucoup plus grave que cela. Parce qu'on a privatisé tout ce qui était marchand, hein, l'industrie, la banque. Mais il restait une chose.
L'industrie automobile aussi, dont on peut se demander si Renault avait bien vocation à continuer d'appartenir à l'État français.
Bien sûr, c'était une nationalisation, vous vous souvenez, patriotique.
Historique.
On a exproprié le collabo. Non, ce qui se passe ensuite, dans les années 2000, et ce qui est accéléré avec Macron, c'est la privatisation des biens publics. Et ça, c'est beaucoup plus grave, parce que, vous savez, le professeur au Collège de France, Supiot, explique que le modèle social français, la spécificité de la France, l'apport français au modèle social... c'est pas la Sécu, c'est Beveridge, ça vient de la Grande-Bretagne. C'est la conception des services publics. Or, c'est ça qu'on va démanteler dans les années 2000. Ça commence un peu avant, avec France Télécom, Jospin. Ensuite, c'est GDF qui est privatisé avec sa fusion avec Suez. Ensuite, c'est EDF qui est partiellement privatisé. Ensuite, ce sont les biens communs, les autoroutes. Et pourquoi je parle de prédation ? Observez les autoroutes.
C'est une rente.
Mais c'est pire que ça. On a racketté les Français. Vous savez quel est le montant des dividendes perçus depuis le début de la privatisation, 2006, jusqu'à 2017 ? 27 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires. Et ces actionnaires, en fait, il y a Vinci, il y a Eiffage. On leur a privatisé à leur profit des aéroports. Toulouse, Lyon, Nice, on a privatisé des autoroutes et on a privatisé même des lignes de chemin de fer. Vous savez que la ligne de chemin de fer TGV, ultra rapide Paris-Rennes, les réseaux ferrés sont concédés à Eiffage. Donc on a constitué des oligopoles privés. Hein, parce que la critique, on privatise parce qu'il faut en finir avec les monopoles publics. Là, on a fait des monopoles privés et on a enrichi. Vous vous rendez compte ce qu'on pourrait faire aujourd'hui en pleine crise sanitaire de ces 29 milliards d'euros ? Donc c'est une prédation gravissime de biens publics et en plus on a mis en cause ce qui était un principe républicain qui est l'égalité d'accès des citoyens à ces services publics.
Est-ce qu'il faudrait, Laurent Mauduit, renationaliser, c'est une question que vous abordez à la fin de votre livre, et dans ce cas, quelle serait la priorité ? Est-ce que ce serait, ce que disent certains auteurs, la distribution du crédit ?
Écoutez, il y a un problème spécifique sur les banques. Hein. Je laisse l'autre côté, mais je pense qu'on ne peut pas financer l'économie avec des banques privées qui cherchent du profit. Et on le voit bien d'ailleurs, la plupart des grandes banques ont arrêté de financer les entreprises. Pour le reste, moi, j'ai un regard assez précautionneux parce que je trouve que le bilan des entreprises nationalisées est aussi très sombre.
Bien sûr.
Hein, regardez le bilan de Renault en termes d'inégalité avec le salaire qu'avait Carlos Ghosn cumulé avec celui de Nissan, 15 millions d'euros par an. Oui. Et c'est l'entreprise où le travail précaire s'est le plus développé. Un emploi sur deux, un sur deux est en intérim. Mmh. Donc c'est vraiment le symbole de ce capitalisme anglo-saxon.
Et le Crédit Lyonnais.
Des désastres.
Et donc,
moi, je trouve qu'il faudrait se poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas des biens qui ne devraient appartenir à personne, ni au privé, ni à l'État ? Est-ce qu'il n'y a pas des biens communs qui appartiennent d'abord aux citoyens ?
Oui.
En clair,
normalement, les citoyens, ça devrait être l'État, ou l'État, les citoyens.
Oui, non, mais c'est, regardez bien, si on dresse ce bilan critique de nationalisation, et sans parler du bilan critique de ce qu'a été l'économie soviétique, l'État soviétique, hein, Je trouve qu'il faudrait fusionner la question de l'appropriation collective avec la démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas des systèmes à construire de sorte que les citoyens contrôlent par eux-mêmes des biens publics?
Mais alors à imaginer, parce que ça n'existe nulle part.
Ça n'existe nulle part. Y a plein de domaines où on peut imaginer. Moi, j'aspire à des inventions démocratiques. La Sécu, c'est assez simple. Ouais. La Sécu, à l'origine, c'était les cotisations, c'était des salaires différés, ouais, gérés par les employeurs et les employés.
Oui, c'est une invention d'il y a 70 ans.
Ouais. A commencé à casser ce système, à mettre l'État dans le jeu. Ouais. Hein, ça a créé, en partie déclenché 68. Bon, on pourrait refonder une démocratie autour de la Sécu. Très immodestement, puisque je suis journaliste à Mediapart, ce qu'on a inventé à Mediapart, un journal sans actionnaire.
C'est une coopérative, non?
Non, ce n'est pas une coopérative. Un fonds de dotation que Libération ou Le Monde observe avec intérêt. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas des inventions démocratiques à faire?
Eh bien, c'est une bonne question. Prédation, votre livre, Laurent Mauduit, Histoire des privatisations des biens publics, c'est alors, évidemment militant, on vient de l'entendre, mais très documenté
citoyen,
et très intéressant. Laurent Mauduit aux éditions de La Découverte. Merci d'être venu.
Merci.